Chapitre 1. Le massacre des frères De Witt. 20 août 1672. Voilà ce qui se passait dans la ville de La Haye, si vivante, si blanche, si coquette, avec ses grands arbres inclinés sur les maisons gothiques, avec les larges miroirs de ses canaux dans lesquels se reflètent ses clochers. La capitale des 7 provinces unies. Voyez courir dans ses rues un flot noir et rouge de citoyens pressés, armés de couteaux, de mousquets et de bâtons. Ils se dirigeaient vers le Buitenhof, la prison où était enfermé Corneille de Witt, frère de Jean de Witt, l'ex-grand pensionnaire de Hollande. Le climat était à l'époque très lourd en Hollande. Les De Witt ménageaient Louis XIV, dont ils sentaient grandir l'ascendant moral sur toute l'Europe, mais qui était depuis longtemps l'ennemi des Hollandais. Jean De Witt avait été le précepteur de Guillaume d'Orange et l'avait élevé dans le but d'en faire un bon citoyen, mais la population était favorable au statut des rats, qu'il avait aboli dans le pays. Guillaume d'Orange, dit le taciturne, âgé de 22 ans, avait donc pris le pouvoir et Corneille, supplié par sa femme, avait donc fini par signer l'acte qui rétablissait ce système politique. Son frère Jean, dont l'adhésion avait été plus rapide, fut victime d'une tentative d'assassinat, mais resta en vie. Les frères De Witt représentaient un obstacle pour les orangistes, qui choisirent la calomnie pour se libérer d'eux. Un certain Ticlaer déclara que Corneille l'avait engagé pour assassiner Guillaume d'Orange. Ce mensonge fit arrêter Corneille le 16 août 1672, et on le tortura pour le faire avouer. Il fut banni du territoire, ce qui était déjà une petite satisfaction pour le peuple. Mais ce n'était pas assez. Jean de Witt, après avoir accusé son frère, avait quitté sa charge de grand pensionnaire. Le 20 août, toute la ville courait pour assister à la sortie de prison de Corneille de Witt. « Empêchons-les de partir !» criait la foule. « Vive Orange ! Mort aux traîtres !» Mais les soldats du capitaine Tilly faisaient reculer bourgeois et peuple pendant que derrière eux Jean de Witt venait de descendre de carrosse et rejoignait à pied la prison. « Bonjour, Gréfus, » dit-il au concierge. « Je viens chercher mon frère pour l'emmener hors de la ville. » Entré dans l'édifice, il avait rencontré une belle jeune fille de 17 ans en costume de frisonne qui lui avait fait une charmante révérence. « Bonjour, bonne et belle Rosa. Comment va mon frère ?»« Oh, monsieur Jean, je crains pour lui, on veut lui faire du mal. » Calme, mais plus mélancolique qu'en entrant, l'ex-grand pensionnaire s'achemina vers la chambre de son frère. Dehors, Tilly avait du mal à retenir le peuple, dont les menaces redoublaient et auxquelles il répondait avec courtoisie, qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres, en les empêchant de s'approcher de la prison. « Laissez-nous passer !» criait le peuple. « Vous ferez un acte de bon citoyen !»«
D'abord, je ne suis pas citoyen, » dit Tilly. « Je suis un officier français. Apportez-moi l'ordre de céder la place et je ferai demi-tour. »
Le peuple se rendit donc à la maison de ville pour obtenir ce qu'il voulait. Entre-temps, Jean de Witt avait rejoint son frère. Il était étendu sur son lit, les poignets et les doigts brisés. Il n'avait même pas la force de se lever pour regarder par la fenêtre grillagée pour voir ce qui se passait dehors. « Corneille, dit Jean, mon pauvre frère, vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas ? Je ne souffre plus puisque je vous vois. Aidez-moi à me lever. Vous venez me chercher, n'est-ce pas ? Demanda Corneille. « Mon carrosse est derrière les troupes de Tilly. J'ai pris des rues écartées pour arriver ici. Vous entendez comme ces gens sont en colère ? Les orangistes nous reprochent d'avoir négocié avec la France. Mais si ces négociations avaient réussi, elles auraient épargné bien des défaites, et la Hollande pourrait encore se croire invincible au milieu de ses marais et de ses canaux. Et si l'on trouvait notre correspondance avec M. Louvois ? « Cela prouverait combien j'aime mon pays et combien j'ai lutté pour sa liberté. Mais cette correspondance nous perdrait auprès des orangistes, nos vainqueurs. Aussi, Corneille, j'espère que vous l'avez brûlé avant de quitter Dordrecht pour venir me rejoindre à La Haye. Je l'ai confié à mon filleul, Cornelius van Berl, qui demeure à Dordrecht, » répondit Corneille. « Oh, le pauvre garçon !» Lui qui ne pense qu'aux fleurs.
Si un jour il saura ce qui nous arrive, s'il est fort, il se vantera de nous. S'il est faible, il criera le secret. Dans l'un et l'autre cas, il est perdu, et nous aussi. Vite, fuyons.
Le principal, c'est qu'il gardera ce secret, vu qu'il ne le connaît même pas, conclut Corneille.
Vite alors, s'écria Jean. Faisons-lui passer l'ordre de brûler l'alias par mon serviteur Craig. S'il trouvait ses papiers, il nous tuerait, répondit Jean.
Ils rejoignirent Craig, auquel Corneille remit cette lettre pour Cornelius, écrite sur une page de sa Bible.
« Cher filleul, brûle le dépôt que je t'ai confié sans le regarder. Les secrets de ce genre tuent les dépositaires. Brûle et tu auras sauvé Jean et Corneille. Adieu. »
Corneille de Witt, 20 août 1672. Pendant ce temps, non loin de la prison, un jeune étranger de 22 ans, au visage pâle et long, au front mouillé de sueur et aux lèvres brûlantes, l'œil fixe comme celui d'un oiseau de proie, le nez aquilin et long, la bouche fine et droite, suivait le peuple vers la maison de ville pour savoir ce qui allait se passer. Vêtu très simplement et sans armes, il s'appuyait au bras d'un officier. La porte du Hochstraat s'ouvrit, et un homme s'avança pour parler avec la foule.
« Qui est cet homme ?» demanda l'étranger à l'officier. « Vous le connaissez ?»«
C'est le député Bowelt. »«
Altesse, je ne te connais que de visage, » répondit l'officier. Après avoir écouté le peuple, le député rentra, et les délibérations commencèrent. Parmi ces députés, beaucoup connaissaient cet étranger, et l'officier craignait donc que l'un d'entre eux ne reconnaisse son Altesse.
« Oui, tu as raison, » dit l'étranger. « Ils m'accuseraient d'être l'instigateur de tout ceci. Restons ici pour connaître leur décision. »
Une délégation roula par les escaliers et le chirurgien Ticlaer, qui était en tête, agitait un papier en l'air.
« Ils ont l'ordre !» murmura l'officier.
« Me voilà fixé, » dit tranquillement l'Altesse. « Retournons au Buttenhof. Je crois que nous allons voir un spectacle étrange. »
La foule était immense sur la place et aux abords de la prison. Tilly contenait la foule quand il aperçut le papier qui flottait en l'air.
« Voici l'ordre !» crièrent sans voix insolente.
« Ceux qui ont signé cet ordre, répondit Tilly avec stupeur, sont les véritables bourreaux de M. Corneille de Witt. » Il plia le papier et le mit dans sa poche et ordonna à ses cavaliers de laisser passer les égorgeurs. Quand les frères de Witt arrivèrent au bas de l'escalier, ils trouvèrent la belle Rosa, la fille du geôlier Griffus.
« Oh, monsieur Jean, dit-elle, quel malheur !»«
Qu'y a-t-il donc, mon enfant ?» demanda de Witt.
« Il y a qu'ils sont allés chercher au Hochstraat l'ordre qui doit éloigner les cavaliers du comte de Tilly. »«
Oh !» fit Jean.
« En effet, ma fille, si les cavaliers s'en vont, la position est mauvaise pour nous. »
« Si j'avais un conseil à vous donner, monsieur Jean, je ne sortirais pas par la grande rue. Vous tomberiez dans les mains du peuple. J'ai déjà dit à votre cocher de vous attendre dans une rue déserte. »«
Mon enfant, dit Corneille, je n'ai rien à te donner en échange du service, excepté la Bible. J'espère que ce présent te portera bonheur. »
Pas un instant à perdre. Les deux frères rejoignirent leur voiture, qui partit au galop. Juste à temps. Le peuple était déjà en train d'enfoncer la porte. Rosa et Griffus se cachèrent dans un cachot secret. La trappe retomba sur leur tête, juste au moment où le peuple se ruait dans la prison. Le jeune étranger observait la scène de loin, conscient que les frères de Witt étaient bel et bien perdus, ayant lui-même donné l'ordre de fermer les portes de la ville. En effet, dès que leur carrosse laissa la prison et la mort derrière eux, le cochon négligea toute précaution et partit au galop. Il s'arrêta net devant la grille fermée. Jean de Witt sortit la tête par la portière. Un brasseur le reconnut et appela des renforts.
« Allons, » dit tranquillement Corneille, « il paraît bien que nous sommes perdus. »
Tout le peuple du Buttenhof allait au-devant de la voiture. Le cocher s'arrêta et refusa de se sauver. Derrière le volet d'une fenêtre, le jeune étranger fixait ses yeux sombres sur le spectacle qui se préparait.
« Oh mon Dieu, mon Seigneur, que va-t-il se passer ?»
murmura son officier.
« Regardez, il tire le grand pensionnaire de la voiture.
Ils le battent, ils le déchirent. Et voici Corneille, qu'il tire à son tour du carrosse. Il est déjà tout brisé, tout mutilé par la torture.
« Monseigneur, dit l'officier, ne pourrait-on pas sauver ce pauvre homme qui a élevé votre Altesse ?»
Guillaume d'Orange, car c'était lui, plissa le front d'une façon sinistre et répondit « Colonel Van Decken, allez, je vous prie, trouver mes troupes, afin qu'elles prennent les armes à tout événement. Ne vous inquiétez pas pour moi. »
Jean de Witt venait de rejoindre le perron d'une maison située en face de celle où était caché son élève. Roué de coups, il cherchait son frère qui venait d'être éventré. Jean poussa un gémissement lamentable et un homme lui creva les yeux avec un coup de pique avant de lui appliquer son mousquet sur la tempe et de lâcher la détente. Quand les deux frères furent tous deux bien meurtris, bien déchirés, bien dépouillés, le peuple les traîna nus et sanglants à un gibet improvisé où les bourreaux amateurs les suspendirent par les pieds. Alors, arrivèrent les plus lâches, qui, n'ayant pas osé frapper la chair vivante, taillèrent en lambeaux la chair morte, puis s'en allèrent vendre par la ville des petits morceaux de Jean et Corneille à 10 sous la pièce. Une fois tout terminé, Guillaume d'Orange fit rouvrir les portes de la ville et gagna la route de l'Aide à cheval.
Ah, je voudrais bien, murmura-t-il méchamment, voir la tête que fera Louis Soleil quand il apprendra de quelle façon on vient de traiter ses bons amis. Oh, Soleil, Soleil, comme je me nomme, Guillaume le Taciturne. Soleil, gare à tes rayons.